Bonsoir et bienvenue dans cette émission. La première phase des consultations entre les groupes armés locaux de la RDC et le gouvernement s'est clôturée hier mercredi 27 avril à Nairobi au Kenya. Selon une dépêche du service des communications de la présidence et de la RDC, à l'issue de ces travaux, le président kenyan et congolais ont exhorté les groupes armés de l'Ituri, du Nord et du Sud Kivu à privilégier la voie de la paix en déposant les armes. Dans la matinée de mercredi, tous les groupes armés présents à ces assises ont remis chacun leur mémorandum à la facilitation dans lequel ils proposent des voies de sortie des tensions armées dans l'est de la RDC. Quel bilan peut-on dresser de cette première phase du processus de Nairobi? C'est l'objet de l'émission de ce soir et nous recevons le professeur Jacques Joly, il est député national, il est vice-président de la commission défense et sécurité de l'Assemblée nationale. Bonsoir professeur Jacques Joly.
Bonsoir Guy.
Professeur Casimir Ngoumbi, politologue et expert dans les domaines des violences politiques et des groupes armés. Bonsoir professeur Casimir Ngoumbi.
Bonsoir Guy Maté.
Et professeur Dadi Salé, il est docteur et spécialiste en développement pour les pays du Sud et enseignant dans plusieurs universités et instituts supérieurs de la RDC et d'Afrique. Bonsoir professeur Dadi Salé.
Bonsoir.
Bienvenue à tous une fois de plus dans cette émission.
Pour participer à l'émission, appelez le 081 051 66 78 ou contactez-nous par SMS 081 051 57 78 ou par mail dec@radiocapi.net.
Nous l'avons dit dans les sommaires, les délégations des 18 groupes armés de l'Ituri, du Nord et du Sud Kivu ont clôturé hier mercredi les premiers pourparlers avec le gouvernement congolais à Nairobi. Après 5 jours de travaux, les participants ont accepté de choisir la voie de la paix selon les sources sur place. Une prochaine rencontre est annoncée par la facilitation kenyane dans les prochains jours, indiquent les sources de la présidence congolaise. Les détails avec Bernardin Nyangui.
C'est encore tôt de parler de bilan de ces premiers rounds des pourparlers qui ont été facilités, rappelons-le, par le président kenyan Uhuru Kenyatta en présence des observateurs du Rwanda, Ouganda, Burundi, des Nations Unies, de la CIRGL, des États-Unis et de la France selon nos contacts à Nairobi. Pour les délégués de groupes armés venus du Nord Kivu, c'était toutefois une opportunité pour eux de faire entendre leur voix. C'est en ce qui concerne, entre autres, le pourquoi d'avoir pris les armes et continuer à les maintenir malgré le processus déclenché par la présidence congolaise et qu'est-ce que les groupes armés attendraient des chefs des États de la sous-région des Grands Lacs après ce processus de Nairobi. Chaque groupe armé a aussi été reçu en aparté par la facilitation pour des recommandations pour la paix dans la région. Nos sources retiennent aussi que, dans le mot de clôture par visioconférence, les 18 groupes armés ont été rassurés de la volonté du président Félix Tshisekedi à accorder le pardon présidentiel à leur leader pour donner la chance à la paix. Après la clôture hier, les délégations rentrent ce jeudi au pays en attendant la prochaine invitation de la facilitation kenyane pour la poursuite des consultations. Goma, Bernardin Nyangui, Radio Okapi.
Merci à vous, Bernardin Nyangui. À la clôture de cette première phase des assises de Nairobi, environ 30 délégués des groupes armés de l'Ituri, du Nord et du Sud Kivu se sont montrés optimistes quant à l'issue de ces échanges. Quelques-uns se sont ainsi confiés ce jeudi à la Radio Okapi. Cependant, ils disent attendre les réponses à leurs revendications pour être complètement convaincus. Pendant ces temps, ceux n'ayant pas participé à ces premiers rounds continuent de se plaindre. Les explications de Sifa Maguru.
Au dernier jour de ce premier pourparlers hier, les délégations des 18 groupes armés ayant participé ont remis chacune à la facilitation kenyane leur mémo dans lequel elles proposent les voies de sortie pour la paix en RDC et dans la sous-région des Grands Lacs, indiquent les sources de la présidence congolaise. Selon certains délégués des groupes armés du Nord Kivu, ils sont satisfaits de cette opportunité de parler aux instances supérieures des États de la sous-région. Ils attendent toutefois la réponse aux revendications exprimées dans ces mémos pour être convaincus et satisfaits. Sur terrain, comme dans les territoires de Masisi par exemple, certains acteurs déplorent déjà une campagne de nouveaux recrutements au sein des groupes armés pour, estime-t-il, gonfler les nombres en marge de ce nouveau processus de paix de Nairobi. Rappelons que pour la rébellion du M23, seule la faction Runiga a participé à ses premiers rounds, l'aile Makenga ayant été expulsée le premier jour. Les sources de la présidence congolaise rassurent que ceux qui ont le plus grand nombre pourraient rejoindre le processus à la prochaine rencontre. Goma, Sifa Maguro, Radio Okapi.
Merci à vous, Sifa Maguro. Professeur Jacques Joly, député national et vice-président de la Commission défense et sécurité de l'Assemblée nationale, la première phase de ces consultations s'est clôturée hier mercredi. Avec tout ce qui s'est dit et tout ce que l'on a pu constater au sujet de ces consultations, les problèmes logistiques, certains seigneurs de guerre déclinent l'invitation, un groupe armé qui pourtant était présent à Nairobi, mais en dépit de cela, prend l'initiative de reprendre les hostilités. Professeur, au vu de tout cela, quel bilan pouvez-vous dresser de cette première phase de consultation?
Bon, merci beaucoup pour l'opportunité que vous nous donnez. Je suis membre de la commission défense et sécurité, donc je ne suis pas membre de la commission des affaires étrangères ou des questions diplomatiques. On peut se féliciter donc de cette initiative, de cette opportunité. Bien que toute guerre a toujours, ou tout conflit a toujours une dimension armée, mais aussi une dimension politique de négociation. Donc on peut négocier, mais il faut revenir à l'essentiel. L'essentiel pour nous, la commission de défense, et nous l'avons dit au gouvernement à plusieurs reprises, c'est que un État ne mérite le nom d'État que s'il peut assurer sa sécurité. Les monopoles de la violence physique légitime. Et c'est essentiel pour nous, Congolais, c'est la crédibilité, c'est l'efficacité de notre outil de défense. À partir du moment où cette guerre qui dure, ou ce conflit qui dure plus de 20 ans, n'a pas encore trouvé une réponse militaire idoine qui donne à la République le moyen de contrôler son territoire, et qui nous fait respecter par ses voisins, eh bien, nous allons toujours dans cette jeu-là de groupes armés qui prennent des armes, qui sont défaits, et qui vont en Ouganda, au Rwanda, trouver refuge, ils reviennent. Et ces jeux, malheureusement, coûtent des vies humaines à des milliers de Congolais. Nous avons plus ou moins 3 millions de Congolais qui sont déplacés, je ne compte pas le nombre de réfugiés, mais qui sont dans les cas des déplacés, des enfants, des femmes, cette tuerie macabre, ben, tout cela nous interpelle d'abord, nous, Congolais, pour assumer notre rôle. Pour le reste, bon, c'était une première réunion. Nous espérons que ces gens qui ont pris les armes, les gens comme du Nord, du Sud, de l'Ituri, je demande qu'est-ce que les Codeco peuvent réclamer. Ils sont au Congo, ils ont leur terre, ils sont de l'Indou, de Emma, pourquoi ils doivent prendre les armes pour tuer leurs frères, c'est ce que je voudrais comprendre, ou tous ces groupes qui se réveillent, qui disparaissent, qui profitent de tous ces conflits. Et donc il ne faut pas que nous puissions nous retrouver dans un dialogue de dupes qui dure depuis des années, c'était hier le RCD ou autre, après c'est le CNDP, après le M23 et le Makenga, elle Runiga et qu'est-ce encore. Voilà, donc pour moi, pour nous, la commission de défense, nous avons fait des recommandations au gouvernement pour doter l'armée de moyens matériels, doter l'armée des armes, des outils pour assurer notre sécurité. Bon, on peut continuer à négocier comme on négocie, mais il ne faut pas qu'on tombe dans un dialogue de naïf ou de dupe.
Voilà, vous avez relevé que l'essentiel pour vous à la Commission défense et sécurité de l'Assemblée nationale, c'est qu'un État assure seul sa sécurité et les monopoles, n'est-ce pas, de la violence. Et donc, cela voudrait dire que tout ce qui s'est fait en dehors de cette logique est un non-sens.
Non, je dirais pas un non-sens. La diplomatie a toujours une place dans toute guerre, même lorsque c'est ce qui se passe en Ukraine avec la Russie, il y a toujours des moments, n'est-ce pas, de discussion. Mais pour discuter, il faut être crédible. Et pour cela, tous ces bandits, parce qu'il y a vraiment des bandits dans ces groupes-là, ben, il faut d'abord avoir la capacité de les détruire, de les frapper. le malheur qu'il cause au peuple congolais. Je voudrais savoir qu'est-ce que le CODECO ou même toutes ces bandes armées qui pullulent là-bas, qui pillent, qui violent, qui sont dans les commerces avec tous ces pays voisins par ailleurs, qui profitent, qui sont des parrains de ces groupes armés. Qu'est-ce qu'on fait? Il faut donc frapper d'abord, avoir l'outil. Mais on peut discuter, on peut discuter. Ce sont des conflits qui ont des ramifications, qui font du parrainage à l'extérieur. Mais je crois que pour nous, au niveau de la commission de défense, nous avons pas exclu la dimension diplomatique parce que ces groupes armés ont, n'est-ce pas, des bases arrières, parce qu'on ne peut pas faire les guerres à base arrière. Nous avons défait les M23, ben, ils étaient dans les camps de réfugiés en Ouganda. Quelqu'un qui est dans un camp de réfugiés peut avoir des armes. Et lorsque nous entendons le président nous est venu dire que le Congo peut devenir demain sous le Soudan, ben, on se demande, lui qui est avec nous dans la mutualisation, des genres de discours, il doit nous interpeller pour dire assurons la sécurité de notre territoire avec nos moyens armés. Quand un État n'a pas d'armée, eh ben, c'est pas un État.
Professeur, 18 groupes armés seulement ont pris part à ces pourparlers, alors que l'on parle de plus de 100 groupes armés actifs dans cette partie du pays, donc dans la partie est du pays. N'est-ce pas un échec lorsque sur une centaine de groupes armés, on n'est réuni que 18?
Vous l'avez dit, il y a 140 groupes armés. Mais sur les 140 groupes armés, moi j'ai fait l'Est, il y a plus ou moins 90% qui sont, n'est-ce pas, prêts à rejoindre le processus de démobilisation. Ce processus, nous l'avons lancé, du moins la nomination de cette équipe date de plus de 6 mois, et nous avons demandé au gouvernement de mettre en place ce processus pour que on puisse désarmer, démobiliser, assurer la réinsertion sociale. Ça fait plus de 6 mois, nous n'avons pas de réponse claire. Alors, pour les autres groupes armés, les violents tels que l'ADF Nalu, ces gens-là, vous allez négocier avec eux. Pourquoi? C'est un groupe ougandais, ils doivent négocier avec l'Ouganda et quitter la RDC. Ou même la RDC3, c'est un groupe rwandais. Donc, à partir de ce moment-là, nous risquons de créer un appel d'air, et vous l'avez vu, votre collègue vous a dit qu'au Massissi, les gens sont en train de recruter. Donc, chaque fois que nous entrons dans ces jeux-là, nous risquons, n'est-ce pas, de créer une vitalisation de ces groupes armés qui estiment que bon, c'est le moment d'entrer au gouvernement, le moment d'avoir des grades. L'M23 est devenu un parti politique. Ils étaient même dans l'ancienne majorité. Qu'est-ce qui justifie aujourd'hui que l'M23 reprenne les armes?
Dans le reportage que nous venons de suivre de nos correspondants qui sont à Goma, Nord Kivu, il est dit qu'après 5 jours de travaux, les participants ont accepté de choisir la voie de la paix. À votre avis, qu'est-ce que l'on peut comprendre par là? Que les groupes armés qui ont participé à ces assises de Nairobi cessent les hostilités et s'inscrivent désormais dans un processus de pacification?
Mais je crois que le président Félix Antoine Tshisekedi et la délégation qui assure sa représentation, son mandat spécial, je crois qu'ils l'ont dit. Le but, ce n'est pas de négocier avec eux, et nous estimons que si c'est ça, mais de dire qu'ils abandonnent, c'est la reddition. Mais j'espère que les États qui manipulent ces groupes armés, les 18 qui ont même pris des avions pour venir à Nairobi rester dans les hôtels aux frais des États de l'Afrique vont déposer les armes. Celui qui prend les armes contre son pays, c'est un rebelle. Il faut le traiter comme tel.
Merci, professeur. Professeur Casimir Ngoumbi, politologue expert dans les domaines de violences politiques et de groupes armés. Quel est le bilan que vous pouvez dresser, n'est-ce pas, de cette première phase de consultation de Nairobi?
Avant d'arriver au bilan, permettez, Guy Maté, que j'exprime mes premiers sentiments. Je suis plus que scandalisé pour le sort réservé aux Congolais massacrés. On a donc cette fois-là, une fois de plus, craché sur nos morts, craché sur ces enfants et sur ces femmes tuées innocemment pour rien. Vous rendez compte, monsieur Guy Maté, que les sociétés contemporaines se trouvent écartelées entre les exigences du vouloir vivre collectif et la nécessité de recourir aux armes pour exister. Ça face aux appétits des ennemis proches ou loin. Plus la République démocratique du Congo sera faible et sa classe politique insciente et prédatrice, moins la violence armée s'arrêtera et les projets des ennemis seront exécutés. Vous voyez là qu'il faut une société civile libérée des liens des acteurs politiques, unie du nord au sud et de l'est à l'ouest, peut distiller des projets machiavéliques des puissances étrangères et de l'inconscience de la classe politique et de sa d'autocratie. Et donc, ici, ce que je peux dire concernant maintenant le DDR, malgré, il y a une expérience qu'on a observée au niveau de l'Afrique, Guy Maté, malgré le succès louable, quelques initiatives de désarmement, de démobilisation, de réintégration sont restées incomplètes ou mal conçues et ont été facteurs du phénomène de la reprise du conflit en Afrique et en République démocratique du Congo. Aussi, la réintégration est la composante la plus complexe et la plus critique du DDR, mais celle à laquelle est accordée malheureusement la priorité la plus basse. Et en général, l'intégration des anciennes milices dans les armées nationales constitue une décision d'opportunisme politique qui va à l'encontre de la professionnalisation des forces nationales, forces armées nationales, et qui a quoi, n'est-ce pas, d'instabilité et de violation des droits de l'homme. Regardez ça pour essayer de parler du bilan. D'abord, quand j'observe ce qui se passe à Nairobi, le gros de la sécurité d'abord provient des groupes étrangers, groupes armés étrangers, qui pratiquement ne sont pas invités à la table de négociation, comme le professeur Jacques Joly. Et donc, c'est, même si les groupes armés locaux sont nombreux, mais je crois que la capacité de nuisance provient le plus de groupes armés étrangers. Ici, je voudrais même trouver M23 deux statuts aujourd'hui. L'M23 est plus un groupe armé étranger que local. Je le dis parce que, d'abord, première raison, aussi longtemps qu'ils n'ont pas encore reçu l'ordre des parents, vous voyez, ils ne se sont pas déplacés vers Nairobi. Et puis quand je vois la configuration des invités, ça me fait penser à beaucoup de choses. Les États-Unis, le Rwanda, l'Ouganda, tout ça, ce pays-là vient de faire quoi? Donc, je voudrais tout simplement dire ici que les groupes armés qui sont à Nairobi sont allés uniquement pour la quête du pouvoir. Et donc, ils sont allés chercher le pouvoir politique, et ils sont allés chercher comment continuer avec leur sale besogne. Et je ne crois pas, moi, personnellement, je ne crois pas que de ces négociations sortiront de solutions durables pour restaurer la paix dans notre pays.
Voilà. Et professeur, vous avez évoqué cette problématique du DDR. Et on sait que l'une des choses que beaucoup d'experts reprochent à la RDC, c'est le fait que rien n'est fait pour assurer la gestion, n'est-ce pas, de la suite de ce genre de processus. Le PNDDRCS a du mal à démarrer ses activités pour des raisons financières, c'est ce qui est dit. Or, on sait que d'une autorité publique, hein, un tel processus ne peut aboutir que si le DDRCS fonctionne comme il se doit. La situation actuelle de ce programme PEN-DDRCS, à votre avis, ne peut pas créer des doutes, n'est-ce pas, dans la tête de certains miliciens qui, peut-être, auraient l'intention, n'est-ce pas, de se rendre, mais lorsqu'ils voient que les mécanismes chargés de les accueillir connaissent des problèmes, cela peut créer des doutes dans leur tête et ils hésitent de se rendre.
Affirmatif, Guy Maté. Et d'ailleurs, les travaux sont faits à l'interne, au niveau du gouvernement de la République, avec le PEN-DDRCS, à qui il fallait donner beaucoup de moyens pour pouvoir réussir à désarmer. Évidemment, ce qui est important ici à retenir, c'est que les groupes armés qui se disent locaux alors qu'ils ne le sont pas, ne peuvent pas accepter de se soumettre au PDDRFCS parce qu'ils savent que c'est les agendas sont nationaux. Or, avec ce DDR, les parrains ne peuvent pas se situer dans un contexte tel qu'ils peuvent donner des instructions aux groupes armés locaux. Ils ne le sont pas en réalité. Beaucoup de groupes armés qui sont qualifiés de locaux ne le sont pas en réalité. Ce sont des groupes armés étrangers qui travaillent en connivence avec l'étranger. C'est ce que je venais de dire. Vous voyez déjà à Nairobi, les cinq premiers jours déjà, regardez, la configuration déjà de présence, c'est quand même grave. Donc on comprend déjà qu'il y a anguille sur roche. Et que cette fois-ci, on voudrait obtenir que le gouvernement de la République, le président de la République de la démocratie du Congo, prenne des décisions qui vont, cette fois-là, préjudicier les intérêts supérieurs de la nation et nous serons obligés de le faire. Un peu comme le fait qu'il y a exprimé lors de la signature de l'accord de Lusaka ou après l'avoir signé, et le président Laurent Désiré Kabila a été mis devant un fait accompli. Et donc, il fallait les dépenser pour que la paix revienne au Congo. Kabila, je n'aurais pas su le pouvoir. Donc, je peur que le même chemin ne soit cette fois-ci observé pour obtenir que le gouvernement de la République fléchisse et consigne n'importe quel type d'accord qui va coûter extrêmement cher. Et puis, ce qui est grave, c'est qu'on veut signer des accords. On veut demander au groupe d'armée de réintégrer l'armée pour tout simplement infiltrer l'armée, entrer dans la salle de commandement de l'armée et bloquer le processus électoral parce qu'ils savent que ces miliciens, ces groupes d'armée, qu'ils ne peuvent pas se présenter aux élections l'année prochaine. Et donc, ils choisissent le même chemin qu'avait observé le M23, le même chemin qu'avait observé le CNDP. Toujours une année ou deux années avant les élections, ils prennent les armes pour défier le gouvernement de la République. C'est pourquoi je venais de le dire, plus la République démocratique du Congo sera faible, moins elle pourra gagner les combats sur le front avec les miliciens. J'ai toujours dit qu'il cherchait à identifier les vrais interlocuteurs de la RDC. Ce n'est pas les M23, ce n'est pas les ADC, même les groupes étrangers nationaux. Étrangers, ils ont l'air pareil à l'étranger, très loin, il faut les expliquer. Comment les identifier? Et même cette négociation, c'est une négociation de passage, à proprement parler, infructueuse pour moi, parce que elles ne conduiront absolument à rien.
Merci, professeur Dadi Saleh, docteur et spécialiste en développement pour les pays du Sud et enseignant dans plusieurs universités et instituts supérieurs de la RDC et d'Afrique. Votre analyse par rapport à cette première phase des consultations de Nairobi?
Oui, merci. Je pense effectivement, je vais essayer de ne pas nécessairement répéter les co-débatteurs parce qu'ils ont dit un peu l'essentiel. Alors, je comprends qu'il y a négociation et que c'est important dans la vie, quel que soit ce qu'il y ait négociation, qu'il y ait la diplomatie. Là, c'est sûr et certain. Nous sommes tous d'accord. Mais cela étant, je pense que se marcher un peu ce point-là. À vrai dire, nous avons trois grandes dimensions dans, entre guillemets, ce qu'on peut appeler conflit ou bien le problème en République démocratique du Congo avec le rebelle. La première dimension, c'est une dimension internationale. La dimension internationale, c'est qu'il y a des implications des Américains, je le cite, il y a des implications des Américains, soit directement ou bien indirectement, ça va, multinationales, des Européens, de tout le monde, dans ces cadres-là. Ça, c'est la dimension internationale, pas nécessairement la dimension du Congo. La deuxième dimension, c'est la dimension régionale. La dimension régionale, là où, même si nous pouvons penser que certains pays voisins, ok, les 9 voisins que nous avons, c'est pas seulement le Rwanda, les incursions, on a eu même des incursions des Angolais, Centrafrique, et nous nous rappelons effectivement au temps de l'Afdel, ça va, c'était la guerre mondiale africaine entre nous. Dans ce sens-là, donc il y a une implication régionale de l'Afrique qui est très grande. Il ne faut pas nier ce point-là. Et la troisième grande dimension, c'est la dimension interne de la République démocratique du Congo, qui a une forme parfois tribalo-ethnique, ça va, où déjà à l'indépendance nous avions la sécession katangaise, nous comprenons qu'il y a eu des rébellions, nous avions déjà des clans. Même les partis politiques ont une petite connotation tribalo-ethnique. Donc, l'interne cache déjà des problèmes qui, pour moi, ont été hérités du néocolonialiste dans ces cadres-là. Raison pour laquelle on comprend, et comme quelqu'un le dit souvent, apparemment, les groupes armés, en grande partie, sont à caractère tribalo-ethnique. Quelqu'un était en train de blaguer que du côté de l'Est, c'est un peu comme si c'est seulement à Idjoui, où on n'a pas des groupes armés. Dans ces cadres-là. Donc, ces trois dimensions, en les comprenant, nous pouvons résoudre la question. Mais si, comme nous avons fait dans beaucoup des dialogues, et malheureusement, le dialogue, encore une fois, à Nairobi, n'a considéré peut-être qu'un seul élément, c'est-à-dire le Congo interne, où c'est à peine que la dimension régionale est touchée. Et la dimension régionale est touchée, pas vraiment avec acuité, avec insistance. Je vais être un peu plus clair dans ces trois dimensions. Ça va? J'ai expliqué la troisième dimension, où c'est les Congolais. il y a quand même des Congolais qui se battent un peu. C'est la zone de Hutu, c'est la zone de Nande, c'est la zone de Uvira, c'est la zone de Kamunasapu. Ce sont des Congolais. Nous sommes tout à fait d'accord. Et en grande partie, vous allez remarquer qu'ils disent qu'ils ne veulent pas que les étrangers puissent prendre le pays. Beaucoup des groupes armés que nous avons en République démocratique du Congo avec ses caractères tribalo-ethniques, c'est comme les Maï-Maï, etc., ce sont des groupes armés qui revendiquent juste la défense du territoire. Parce qu'ils supposent que le territoire est un peu pris par les étrangers, en grande partie, franchement. Je ne connais pas à des milliers de revendications, mais ça fait partie de leurs revendications. Donc, ils estiment qu'ils devaient se protéger. Alors, le deuxième point régional, ça va, c'est que, à vrai dire que nous le voulions ou pas, nous avons les FDLR. Que nous le voulions ou pas, nous avons les ADES. Que nous le voulions ou pas, nous avons des groupes armés pratiquement affiliés à ces pays-là voisins qui sont dans ces sens que j'appelle régional. Et que par exemple pour le Rwanda a des sérieux problèmes avec les FDLR, n'est-ce pas? Parce que les FDLR veulent une négociation. Ils veulent une négociation directe avec le Rwanda pour retourner chez eux. À défaut d'avoir la négociation, ben c'est à ce moment-là que ben ils restent en République démocratique du Congo en train de faire ce qu'ils sont en train de faire. Donc, tant qu'on ne résout pas aussi la question régionale où il faut un dialogue franc de Rwanda, chers Rwandais, résolvez aussi votre question avec les FDLR. Qu'est-ce que vous en faites? Est-ce que vous voulez qu'ils puissent mourir en République démocratique du Congo ou bien ce sont des Rwandais et ils ont le droit de retourner au Rwanda? Quelles sont les conditions? Donc, en ce moment-là, ça va prendre une dimension aussi des négociations directes avec les Rwandais. Même chose avec l'Ouganda, avec les ADF, même chose avec le Burundi, avec des groupes armés vers Fizi, etc.
Professeur de Vitali, vous évoquez ces trois dimensions. On sait qu'il y a des problèmes entre le gouvernement congolais et les groupes armés locaux, et c'est même la raison d'être du processus de Nairobi. Mais il y a aussi des problèmes entre les groupes armés locaux. Ils s'accusent habituellement d'être au service soit des puissances étrangères, soit des gouvernements congolais. Vous ne pensez pas que Nairobi puisse aussi servir de cadre pour amener ces groupes armés qui se sont toujours fait la guerre, de pouvoir s'entendre, mais aussi parce que vous avez des puissances internationales qui semblent soutenir ces processus de Nairobi. Ça ne serait pas une occasion, n'est-ce pas, de pouvoir parler avec ces puissances internationales en évoquant ces trois dimensions que vous avez relevées ici?
Oui, ça peut se parler. Je voulais qu'on soit un peu plus objectif. Je pense que ça peut se parler au marché. Ça se parle déjà au niveau des Nations Unies, on ne sait pas à quel niveau. Ça se parle partout. Ça s'est parlé déjà, mais quand vous avez un cadre qui a une contrainte, alors là, ça peut marcher. Par exemple, dans ces cadres-là, les États-Unis ou bien les multinationales ne sont que entre guillemets des juges. Ça va? Ben, ils n'ont rien à faire. Ils ne sont même pas accusés. Vous me comprenez? Donc, ils ne sont même pas accusés. Donc, ils n'ont rien à faire là-dedans. Ils participent. Ce sont des assistants. Comment est-ce que les rebelles de la République démocratique du Congo vont s'entendre entre eux avec les gouvernements? Donc, cette participation n'est pas une participation active. C'est-à-dire que le cadre est totalement mal choisi. Et je pense que le problème, c'est quoi? Un des problèmes, c'est les leaderships faibles africains. Les leaderships faibles, excusez-moi d'être direct, les leaderships faibles congolais, depuis un temps, ça n'a rien à voir avec, quand on dit leadership, je ne dis pas président. Non, le président fait partie aussi. Mais on a un leadership non seulement politique, de la société civile, et même un peu des églises, etc. Donc, quand on a un leadership très faible, c'est-à-dire qu'on ne met pas le vrai problème sur la table. Donc, nous faisons un peu une politique d'Autriche. Nous faisons un peu une diplomatie de faibles. À vrai dire, sur la table, il n'y a pas le vrai problème. Là, sur la table, à Nairobi, il y a le faux problème. Alors, s'il vous plaît, soyons quand même un peu intelligents. Comment voulez-vous, en mettant sur la table le faux problème, ou bien le petit problème dans les grands problèmes, que vous voulez penser que nous allons trouver des solutions? Non, ça c'est faire semblant. Comme mes co-débatteurs viennent de le dire, on pourra trouver des semblants de solutions, mais pas des solutions durables. Absolument pas, parce qu'on n'aura pas touché exactement le problème avec le Rwanda, le vrai problème, les Rwanda et les FDLR. On n'aura pas à toucher le problème de l'Ouganda avec les ADF. On n'aura pas à toucher le problème de toutes ces entreprises multinationales qui pillent la République démocratique du Congo dans l'impunité et qui favorisent effectivement ces groupes armés et qui favorisent même certaines nations. Vous me suivez? Donc, ces triangles-là, si on ne combine pas des solutions idoines dans ces triangles. Pour moi, et je ne suis qu'un petit expert, mon expertise me dit que, quel que soit ce qu'on va se dire là, ça ne pourra pas amener des solutions durables.
Merci.
Mais il faut considérer les trois dimensions.
Merci, professeur Jacques Zoli. Vous êtes député national et vice-président de la Commission Défense et Sécurité. Le processus de Nairobi est en cours. Et à votre avis, que faut-il pour que ce processus aboutisse effectivement au rétablissement de la paix dans l'est de la RDC? Est-ce qu'il faut y intégrer, n'est-ce pas, la dimension régionale et internationale comme le proposent les professeurs d'Addis Salé?
Cela va de soi. Je crois que le professeur Salé vous a dit la meilleure compréhension de la scène et des enjeux vous permet de trouver la solution. Si vous ne faites pas un diagnostic sérieux de la pathologie, la médication reste totalement inutile. Vous avez un conflit en République démocratique du Congo qui, bien sûr, pose des problèmes de convivialité entre certaines ethnies ou groupes. On ne peut pas nier que dans l'Ituri, par exemple, nos frères les qui sont dans le Codeco créent des problèmes avec d'autres frères qui sont Tchiniazaïr ou Tchiniakilima ou d'autres FRPI. Donc il y a un problème de convivialité au sein de ces communautés. Il y a le problème de Banyabusha qui vient s'amener là-dessus. Si vous allez dans le Nord Kivu, dans les Masisi, les groupes armés sont essentiellement des groupes d'essence ou à base tribale. Donc il y a un problème au niveau national. Il faut savoir régler en termes de restauration de l'autorité de l'État et de savoir vivre ensemble. Il y a un problème régional. Que ces groupes armés, que ce soit l'M23 qui, n'est-ce pas, trouve ses bases, ou les Rebelles de l'air, ou les ADF Nalu, ce sont des groupes armés qui ont été créés pour des problèmes qui sont au Rwanda. Nous n'avons rien à voir avec les ADF de l'air, ou nous n'avons rien à voir avec l'ADF Nalu qui a été créé pour le pouvoir en Ouganda. Alors, même les Burundais qui sont là, mais il y a des groupes armés, les Red Ntabara et autres, les SDD ou autres qui sont du côté dans le plateau du Tombwe ou du côté des Fidji, sont des groupes armés qui ont des problèmes politiques au Burundi. Alors, comment on peut aller dans une négociation où on met les Congos, le gouvernement congolais, en face de ces soi-disant groupes armés, 18 choisis sur je ne sais pas sur quelle base, et à ce moment-là, l'Ouganda, le Rwanda, le Burundi deviennent des observateurs. Quels observateurs? Ils sont partie prenante au conflit. Et comme l'a dit les collègues, le fond de cette guerre-là, c'est le pillage des ressources minières congolaises. Mais qui achète les coltans du Congo? Où est raffiné les coltans du Congo? Ça va dans quel pays? Donc, il faut, s'il y a une volonté de résoudre la question, d'avoir cette démarche holistique et globale, et non une démarche hypocrite qui consiste à te moquer de Congolais ou dire que c'est un problème de Congolais. Non, c'est pas un problème de Congolais.
Merci.
La GF n'est pas un problème congolais. L'FDLR n'est pas un problème congolais. Les groupes armés, gouvernementaux et pro-gouvernementaux burundais qui se battent de la plateau du Tambou ne sont pas des Congolais. C'est les Congolais qui souffrent de cette guerre-là.
Merci, professeur Jacques Joly. Professeur Casimir Ngoumbi, vous êtes aussi d'avis qu'il faut, pour faire du processus de Nairobi un succès, pour que ce processus aboutisse effectivement au rétablissement de la paix dans l'est de la RDC, il faut tenir compte de la dimension, en plus de la dimension interne de la RDC, il faut tenir aussi compte de la dimension régionale et internationale, comme l'ont proposé les deux professeurs d'Addis Salé et Jacques Joly.
Affirmatif, c'est quand même élégant. On ne sait pas ne pas tenir compte de cet aspect-là. C'est extrêmement important parce que nous devons toujours continuer à identifier les vrais ennemis de la RDC. D'Addis Salé a parlé de tous ces acteurs-là. Les multinationales, on ne sait pas les identifier. Pourquoi ils ne sont pas là? Les grandes puissances qui sont là, peut-être oui, on a vu. Mais le vrai problème, on ne sait pas l'identifier. Et puis, aller, comme je venais de le dire, aller à Nairobi, dans un contexte où le gouvernement congolais n'est pas très fort sur le terrain, moi je crois que quand on négocie et qu'on est en position de faiblesse, on va donner des semblants. C'est pourquoi je disais qu'au bout du compte, les groupes rebelles et leurs alliés veulent contraindre le gouvernement à rechercher une grande série de massacres, autre crime contre les populations dont qui sont en terre. Est-ce qu'il faut vraiment oser de jouer avec le feu de cette manière-là? Et puis regardez, Guy Maté, nous sommes dans pratiquement à trois décisions apparemment contradictoires. État de siège, dans un premier temps, le PDB, ça va encore, parce qu'il y a des complémentarités avec l'état de siège, mais on quitte tout de suite là sans évaluer, on va vite à Nairobi. Vous voyez qu'il y a une sorte de tâtonnement qui risque de coûter extrêmement cher au gouvernement de la République. Moi, je crois qu'il faut dire des choses telles qu'elles se présentent, et le gouvernement de la République doit cesser comment rencontrer les vrais interlocuteurs de la RDC. Ils sont connus. Si nous voulons nous rallier aux grandes puissances anglo-saxonnes, commencer à apprendre la langue anglaise et faire de cette langue-là une deuxième langue, pour que d'ici 20-30 ans, nous puissions avoir les mêmes positions que l'Ouganda, le Rwanda et les autres pays, avec les États, les pays anglo-saxons. Moi, je crois que je ne suis pas tout à fait opposé parce que la francophonie, jusque-là, je ne trouve pas des gains par rapport à ça.
Merci, professeur.
Si nous pouvons, de l'autre côté, pour essayer de trouver une solution durable, moi, je crois qu'il faut y aller.
Merci. Nous allons maintenant donner l'occasion, n'est-ce pas, aux différents auditeurs qui ont fait d'appeler pour donner leur point de vue par rapport à ces sujets. Professeur Dadi Salé, vous allez réagir à la réflexion de l'auditeur qui nous appelle depuis Kinshasa.
Chico Bassa, je vous appelle ici à Kinshasa. Il sera un peu hardi de dresser un bilan satisfaisant ou non satisfaisant, car nous en avons à plusieurs reprises assisté à de telles consultations et accords, mais malheureusement les résultats attendus par la population a été toujours contraires. Si ce n'est pas l'État congolais qui ne respecte pas l'accord conclu, c'est ces groupes armés qui jouent l'hypocrisie. Il serait mieux que ce qui est mis sur papier ou discours soit appliqué ou mise en action, où nous avons qu'un seul souci qui est que la paix soit rétablie dans cette partie du pays. Hélas, nous déplorons à ce que tous les partis, tous les groupes armés ne prennent pas part à ces consultations, car cela risque davantage créer d'autres listes.
Professeur Dadi Salé.
Oui, l'analyse de l'ami est vraie et ça démontre à suffisance les désarrois, les désespoirs, un peu une sorte de on n'a pas confiance en ces négociations-là. Je ne sais pas qui a confiance en ces négociations, parce que effectivement, on en a eu assez de négociations. Donc au fond, le pouvoir exécutif devra nous ramener des résultats. Et que le pouvoir législatif devra tout faire pour nous élaborer des lois et faire des contrôles pour que nous puissions atteindre des résultats. Donc je pense que si je cite les deux là, c'est parce que la plupart des fois, les gens parlent de notre armée. Non, je pense que c'est une mauvaise réflexion de parler de l'armée. Moi, j'aimerais que les gens puissent commencer à parler de la politique de défense. Quelle est notre politique de défense? Notre armée est forte. Nous avons des militaires. Mais même si vous amenez des Rangers, des Américains, des Chinois, des Russes, etc., mais qui peut-être ne mangent pas, qui n'ont pas des munitions, leurs familles ne sont pas peut-être bien encadrées, etc., mais surtout qui n'ont pas des armes de dissuasion, ben, l'armée ne pourra pas faire grand-chose. Si nos services de sécurité, effectivement, n'ont pas le moyen, il n'y a pas une bonne politique pour nos services de renseignement, parce que on ne peut pas faire une guerre ou bien en finir sans renseignement. Ce n'est pas possible, ce n'est pas acceptable. Reconnaissons que l'ANR et nos services que nous avons, bien sûr, eux-mêmes le disent. Eh bien, parfois, ils n'ont pas les moyens, ils n'ont pas de communication, ils n'ont pas assez de moyens dans ce sens-là. Donc, je pense que nous avons une mauvaise politique de défense, ce qui fait que, comme un de nos co-débatteurs vient de le dire tantôt, ce n'est pas possible d'aller dans une table de négociation, dans une position de faiblesse.
Professeur Dadi, nous sommes en train d'étendre vers la fin de l'émission. Quelles sont les recommandations que vous pouvez faire au gouvernement congolais pour que les processus qui viennent d'être lancés à Nairobi, que ces processus, cette fois-ci, puissent nous aider à rétablir la paix dans la partie est de notre pays? Ça sera sous votre conclusion.
Oui, une des solutions qui est un peu idoine, c'est un peu la solution Kujitegeme, la philosophie qu'on propose. Ça signifie que les Congolais, nous ne devons que compter sur nous-mêmes. Ça c'est sûr. Pas sur des étrangers ou bien entre guillemets Nations Unies utilisées à tort ou à raison. C'est-à-dire que nous devons nous constituer des dissuasions. Si personne n'a peur de nous, si on ne peut rien faire à personne, comme on le dit, en diplomatie, il n'y a que des intérêts. il n'y a pas d'amitié. Donc, et au niveau international, ben, rien ne va se passer. Et au niveau régional, rien ne va se passer. On sera et on restera les dindons de la farce.
Merci.
Donc, je pense que la première chose, c'est se constituer. Ça va en une force dissuasive dans tous les sens. Et je vous assure, tous ces trucs-là qu'on est en train de parler, négociations, on n'en serait même pas là.
Merci.
Et aucun pays voisin n'oserait même pas nous attaquer si ces pays-là savaient qu'en nous attaquant, nous allons réciproquer immédiatement. Pas raconter des histoires que ça c'est la bonne diplomatie, non. Une diplomatie de faible, qui ne fait rien, qui ne dit rien, qui ne rétorque pas, ben naturellement on va faire encore 1000 ans en train de tourner comme les dindons de la farce.
Merci professeur. Merci professeur Jacques Joly, vous allez aussi réagir à la réflexion de l'auditeur qui nous appelle depuis la ville de Kisangani dans la Tchopo.
René Lokonga depuis Kisangani dans la province de la Tchopo. À mon avis, les groupes armés qui naissent chaque jour à l'est du pays savent déjà au préalable que pour accéder à un certain nombre de responsabilités au niveau du gouvernement, il faut passer par la prise des armes contre l'État, sachant que ce dernier finira toujours par négocier avec eux, puis viendra un moment déposer un certain nombre de préalables pour accéder à certaines responsabilités au sommet de l'État.
Professeur Jacques Joly, votre réaction ?
Mais je crois que l'auditeur de la Tchopo dit ce que nous disons tous. La première des choses, c'est que il est important. Nous avons lancé un processus de restauration de l'autorité de l'État, de la tranquillité, de la sécurité à l'Est avec l'État de siège. Nous avons évalué et nous devons trouver la posture nécessaire pour restaurer l'autorité de l'État, la paix dans cette partie. Et comme cette sécurité a une dimension régionale, eh bien, on peut alors joindre ces deux dimensions nationales et régionales. Mais si nous ne parvenons pas à avoir un outil, à définir une politique de défense et de sécurité cohérente, et dégager autour de cette vision de moyens à donner à notre armée pour assurer la sécurité de notre territoire, ben, nous n'aurons pas la diplomatie pour négocier, mais des yeux pour pleurer. Ils ont commencé, ça fait 5 jours, ils ont déposé leur mémoire, et je crois que à ce niveau, c'est la présidence qui était là, parce que aucun membre de l'exécutif, à part la présidence, donc le membre du gouvernement, était là pour nous donner à nous. Nous allons rentrer en contact avec le ministère de la Défense pour nous donner, n'est-ce pas, le feedback de cette rencontre. Mais à ce qui nous concerne, il est important que, un, nous puissions remettre notre outil de défense, notre structure de défense, qui a été totalement cannibalisée pendant 18 ans, nos forces armées terrestres, navales et surtout aériennes, notre capacité de forces spéciales pour que nous puissions restaurer l'intégrité de notre territoire. Mais comme il y a une dimension nationale, il faut rapidement lancer le processus d'aide qui traîne des séminaires et autres, et la communauté internationale qui a promis des moyens, de moyens ne viennent pas, il faudra que nous puissions nous en trouver. Et alors, à ce processus de désarmement volontaire, mais aussi de désarmement forcé par l'armée, on peut alors joindre une dimension diplomatique.
Merci.
Parce que nous savons que derrière tous ces États qui nous invitent comme observateurs, et ce sont des États-là qui sont des pyromanes et qui se veulent jouer aux sapeurs-pompiers.
Merci professeur Jacques Joly, je considère ça comme votre conclusion. Professeur Casimir Ngoumbi, vous allez aussi réagir à la réflexion de l'auditeur qui nous appelle depuis la ville de Bukavu au sud Kivu.
Robert Mahomet de Bukavu au sud Kivu. Je pense que jusqu'à ce niveau, la première phase de consultation entre les groupes armés locaux et le gouvernement congolais semble échouer. Il n'y a pas d'évolution notable. Chacun des partenaires campe dans sa position. Comme toujours, le gouvernement congolais, lui, exhorte les groupes armés à privilégier la paix en déposant les armes. Et les groupes armés locaux, quant à eux, ne se limitent qu'à remettre leur mémorandum à la facilitation en proposant des voies de sortie de tensions armées à l'est de la RDC. Tout ceci n'est pas suffisant pour le rétablissement de la paix et de la sécurité dans cette partie du pays.
Professeur Casimir Ngoumbi.
Il faut être bon de président pour être supérieur. Mahomet venait de dire là. Je suis totalement d'accord avec lui. Vous voyez, les cadres tracés déjà inquiètent au plus haut point. La configuration de présence, l'absence du M23, un pardon anticipé accordée aux rebelles. Moi, je crois qu'il faudrait quelques décisions à prendre, au lieu d'aller vite en besogne. Sinon, une fois de plus, ça ne va pas la peine.
Vos recommandations à l'endroit du gouvernement, en guise de conclusion?
Que la société doit se prendre en charge. Moi, je crois que les populations doivent se mettre debout comme un seul homme. Et que le gouvernement cesse d'arrêter cette petite personne, ce militant qui défend les droits de l'homme, parce qu'ils ont mis la voix à la place publique. Moi, je crois qu'il faut que tout le monde prête la main, n'est-ce pas, au gouvernement, et que le gouvernement, n'est-ce pas, essaye de recadrer les choses. On ne peut pas prendre plusieurs décisions à la fois, au risque de ne prendre aucune décision.
Merci.
C'est dans ce cas-là que nous pouvons réussir. Sinon, les négociations de Nairobi, c'est un échec pour moi.
Merci, merci beaucoup au professeur Jacques Joly, professeur Casimir Ngoumbi et professeur Dadi Salé d'avoir accepté de participer à cette émission. Merci aussi à Alain Ngoy qui était à la technique, à Kelly Nkoute et Dona Madimba qui ont réalisé cette émission sous la supervision de Martin Sebujangwe, à la présentation Guy Maté. Merci une fois de plus et bonne suite du programme sur Radio Capi.